Chers frères et sœurs, laissez-moi vous raconter une petite histoire de mes années argentines. J'ai passé presque 8 ans là-bas, comme un certain nombre d'entre nous avons passé quelques années là-bas. Et on a des frères argentins, et frère Mariano, peut-être certains d'entre vous le connaissent, a un frère qui fait de l'élevage de taurillons et de taureaux. Et nous étions allés en vacances, donc dans sa campagne, à Tchakhari, et voilà que son frère nous invite près de sa ferme, et les taureaux étaient là, il nous dit, allez rentrer les taureaux. Alors voilà, il nous donne 2 chevaux, avec frère Mayonnet et moi, et puis on y va, tout guilleret, on dit, ça va être un jeu d'enfant, voilà. Et alors on trotte comme on peut, mais enfin, on fait bonne figure, et puis on arrive petit à petit à rassembler le troupeau, et puis on l'achemine vers l'enclos. Tout se passe vraiment très bien, d'une docilité et les bêtes extraordinaires. Puis au moment de rentrer, la première s'échappe, elle veut tout sauf la porte, et tout le troupeau suit. Et alors on ne décourage pas, on y va 2-3 fois comme ça, et puis on capitule, clairement. Et on dit au frère de frère Mariano, vas-y toi, parce que nous, on n'y arrive pas. Alors il y va, il monte sur son cheval, et puis petit à petit, il rassemble les bêtes, et puis il les achemine vers le corral, vers l'enclos, et puis au miracle, la première bête rentre, et toute rentre derrière elle. Qu'est-ce qu'il a eu de plus que nous ? Alors, il était meilleur cavalier, mais ça ne change pas grand-chose. En fait, il a su crier et parler comme il fallait. Quelques cris comme ça, qui connectent avec le troupeau et qui fait que, ils obéissent à ses ordres et qu'ils font ce qu'il lui demande. Vous voyez, quand Jésus parle du troupeau, il dit « Les brebis écoutent sa voix du bon pasteur ». Jésus ne fait pas de la littérature, fait pas de la littérature pieuse. Il est enraciné dans un terroir, dans une réalité agricole, pastorale, celle du berger qui doit mener son troupeau. C'est très réaliste. On a beaucoup d'images un petit peu idéalisées d'un bon berger qui lève les yeux au ciel et pendant ce temps-là, ses brebis s'en iraient, mais voilà, c'est pas du tout ça, Jésus. Et alors, il faut voir justement le rôle de cette voix. C'est le premier point que je verrai. Mes brebis écoutent ma voix. Le bon pasteur, c'est celui-ci. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire que faire écouter sa voix ? C'est-à-dire que le berger n'y va pas avec la force pour faire rentrer ses brebis. Il y va en rejoignant un principe intérieur dans les bêtes. Et ce qui va faire demeurer dans l'enclos les brebis qui ne sont pas encore de cet enclos, comme dit Jésus, c'est qu'elles écouteront sa voix. Elles y seront, non pas parce que les autres y sont et qu'elles ne peuvent plus sortir et que les autres brebis ont fait comme un rempart de leur corps et on peut plus rien faire d'autre, ça s'appelle le conformisme, ça. Et Jésus veut tout sauf ça. À chacun d'entre nous, il veut adresser une parole qui nous maintienne à l'intérieur du troupeau, de l'Église, de la voie droite, mais qui s'adresse toujours à notre cœur et à notre liberté. Alors c'est certain qu'une telle parole, elle ne se fait pas entendre comme le voix du gaucho qui crie. C'est une parole très intime, très profonde, qui nécessite une vraie vie intérieure. Juste un mot, mais je suis toujours frappé que dans les années 60, 70% de pratiques, dans les années 75, 15% peut-être, y avait-il une vraie vie intérieure qui maintenait à l'intérieur du troupeau ? C'est l'enjeu. Aujourd'hui, il nous la faut si nous voulons être fidèles. Sans intériorité, pas de liberté, que des contraintes. Sans intériorité, pas de fidélité. L'enjeu de cette voix que le bon berger nous fait entendre. Deuxième parole que le bon berger dit, « Elles sont à moi. Elles entendent ma voix et je la fais connaître. Mes brebis me connaissent et je connais mes brebis. » Voyez ce qui distingue le mercenaire du berger, du bon berger, c'est que le bon berger est propriétaire du troupeau. Ça, c'est important. Encore une fois, ce n'est pas des rêveries, c'est des réalités économiques derrière. Si le berger perd une brebis, il perd son gagne-pain, il perd sa vie. Autrement dit, le berger, il s'identifie à son troupeau par nécessité. Bien sûr, Jésus ne s'identifie pas par nécessité, mais il s'identifie avec nous. C'est ce qu'il faut retenir. Et qu'est-ce qu'il a vu, Jésus ? Il a vu que nous étions lacérés par le loup démoniaque qui voulait nous détruire jusqu'à nous anéantir totalement. Il nous a vus lacérés par le péché. Et il a dit « Non, non, ça, je n'y tiens plus. » Finalement, tout ce qui se passe, c'est à moi qu'on le fait tout ça, parce qu'elles sont à moi. Vous voyez, le fait que le mercenaire, lui, le troupeau, il s'en fiche, c'est parce que le troupeau, il n'est pas à lui. De toute façon, si le loup vient et s'il emporte quelques brebis, bah, il aura bien le temps de s'enfuir dans la nuit, aller chercher un autre maître, ne pas trop faire état de son curriculum, et puis il sera embauché. Voilà. Ce n'est pas le vrai berger. Il y a ce lien d'appartenance. Nous appartenons à Jésus. Et puis, troisième parole que j'ai dû dire, je donne ma vie pour mes brebis. Vous voyez, peut-être que les parents en font davantage d'expérience. Quand est-ce qu'une personne nous devient chère? Quand nous nous donnons pour elle? Je pense à ces parents qui ont dû veiller au chevet d'un enfant malade, se relayer, aller à l'hôpital, passer des nuits blanches. Et puis, grâce à Dieu, le petit enfant sort de cette maladie. À quel point il sera cher à ses parents? Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour le Seigneur. Il a donné sa vie pour nous et nous lui sommes devenus d'autant plus chers. Chers frères et sœurs, j'aimerais, à partir de ces trois points, voir en quel sens cela définit aussi le bon pasteur. Le consacré, le prêtre, tel que Dieu le veut. Eh bien d'abord, le prêtre tel que Dieu le veut, le consacré ainsi que Dieu le veut, il fait entendre la voix de Jésus. C'est tellement important cela. Vous voyez, il serait tellement préjudiciable de faire entendre sa voix, de séduire, de faire pression. Parfois, il y a des façons d'être pasteur qui ne sont pas honnêtes, parce qu'on ne s'adresse pas au cœur, mais on s'adresse aux passions, à la peur, à la séduction, etc. Et ça, c'est pas bon. Le bon pasteur, c'est celui qui se fait comme l'écho de cette voix qu'il a lui-même entendue. Entendre en moi la voix du Christ pour m'en faire le relais. C'est extraordinaire, ça, de voir que peu à peu, Dieu nous fait cette grâce que dans nos pauvres paroles de prêtre et de consacré puissent s'entendre l'écho de la voix même du Christ. Et j'en suis persuadé que c'est ainsi. C'est pas parce qu'on est meilleur, c'est parce que c'est notre vocation. Et non seulement la voix même du Christ, comme dit le curé d'As, le prêtre, c'est le cœur de Dieu sur la terre, mais les paroles même du Père, puisque Jésus ne dit aucune autre parole que celle qu'il a entendue dire auprès du Père. Autrement dit, nous adressons des paroles qui viennent du fin fond de l'éternité et qui reconnectent les brebis à leur origine et qui les apaisent. C'est ça notre rôle. Et il est magnifique. Deuxième point, mes brebis sont à moi. Il faut que le prêtre, le consacré, puisse dire « les brebis sont à moi ». Non pas par possession, mais parce qu'il doit adopter son peuple. Quelques petits exemples pour la littérature, vous savez que j'aime bien ça. Le début du journal d'un curé de campagne de Bernanos. On voit ce pauvre prêtre qui est envoyé dans une pauvre paroisse bien déshéritée. Je crois que c'est dans le Pas-de-Calais. Et il la voit, il la compare à une espèce de bovin avachi. Et pourtant, il l'adopte, il l'aime et il va la transfigurer. Le curé d'Ars, quand il est envoyé à Ars, c'est pas brillant, hein, de la sorcellerie, de la moralité, tout ce qu'on peut imaginer. Mais Ars, c'est son village, il l'adopte, c'est à lui. Ars et lui, c'est tout un. Et du coup, quelque chose va se passer. Et puis notre cher père Lamy, lui aussi, c'était pas brillant, sa terre de mission, la Courneuve, Saint-Ouen. Mais il dira, dans ces bidonvilles qu'il visite, « Voilà mes chiffonniers, voilà mes chers biffins, que j'ai de plaisir à revoir ces paysages. Que de misère physique et morale, mais aussi que de cœur, quelquefois. » Et vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui connaissent mieux la vie du père Lamy, il disait « Ce sont mes châteaux et mes princes. » Ce bidonville était devenu un palais parce qu'il était devenu sien et qu'il l'aimait. Et puis enfin, le bon pasteur donne sa vie pour ce brebis comme le prêtre est appelé à le faire, comme le consacré est appelé à le faire. Vous vous souvenez peut-être des paroles de saint Paul qui disait aux Thessaloniciens, Dieu sait si ce n'était pas facile sa mission parmi ce peuple, « Vous m'êtes devenu très cher. » Pourquoi ? Ben, il ne le dit pas, mais on le devine. Parce que je me suis donné pour vous. Je me suis donné jusqu'au bout. Je vous ai pris comme une nourrice prend son petit enfant, c'est son expression, sur ses bras, pour le nourrir, pour le consoler. Et à ce moment-là se produit, plus encore, cette transfiguration du peuple qui nous est confié. Pourquoi ? Parce que ce peuple a coûté notre sueur, nos larmes, notre sang. C'est cela, pour tous ceux qui peut-être se poseraient des questions par rapport à la vocation de prêtre, c'est cela être prêtre. C'est pouvoir accomplir cette transfiguration du peuple qui nous est confié pour ensuite le donner à Dieu. Et il n'y a pas de plus beau chemin. Voilà, c'est voir chacun comme Dieu le voit, c'est voir chacun comme Dieu le rêve et l'aider peu à peu à devenir cet homme nouveau, cette créature nouvelle, à accomplir cette nouvelle naissance. Alors, chers jeunes, peut-être qui pouvez vous poser cette question, cela en vaut vraiment la peine. C'est une grande source de joie, une grande source de consolation pour le cœur de Dieu, pour notre propre cœur et pour tous ceux auprès de qui nous sommes envoyés.